Alors, aujourd'hui, je vais situer la question des temps de travail, et notamment du temps partiel, dans une analyse d'abord un peu générale des modèles d'analyse des caractéristiques de l'emploi et des mécanismes de soit de segmentation, soit de compensation. Et puis ensuite, je l'appliquerai à ce cas remarquable qu'est le monde néerlandais. Je vous expliquerai pourquoi c'est un modèle qui s'est diffusé, qui a transformé les normes du rapport au travail. Le temps de travail, la quantité, le rythme, la variabilité des horaires, les rythmes atypiques du travail du soir, la nuit, le dimanche, etc. et le temps partiel figurent parmi un certain nombre des caractéristiques qui peuvent faire l'objet de compensations positives ou négatives quand on détermine un salaire ou une prétention à un salaire. Ici, j'ai présenté, pour ce qui concerne le temps partiel, l'ensemble des traits classiquement considérés comme positifs ou négatifs en bas, vus du point de vue de l'employeur, du salarié et de l'acteur public. L'employeur, il peut ajuster des heures au cycle de production, il peut ajuster ses coûts de production et des gains de productivité, répondre éventuellement aux préférences des salariés, ça se répand. Et les aspects négatifs, c'est le problème des coûts fixes. Quand on embauche un travailleur à temps partiel, évidemment, il y a des coûts de recrutement, de formation et des contributions, etc., qui ne peuvent pas être proportionnés exactement à la nature de l'emploi. Et il y a des coûts généraux du travail, équipement, etc., des postes de travail. Donc, c'est un élément désincitatif, ou du moins en partie. Pour le salarié, du côté positif, classiquement, on dit que c'est une solution de conciliation équilibrée entre travail et engagement externe, par exemple les engagements familiaux, soins aux enfants et peut-être maintenant de plus en plus aux parents âgés, solution d'entrée ou de retrait progressif du marché du travail sur le cycle de vie, à l'entrée, on a dit, pour les étudiants, à la sortie, quand on prend de l'âge. Et il y a, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de la satisfaction personnelle à travailler de manière plus modulée. Du côté négatif, évidemment, le problème est de savoir si les salaires seront les mêmes, les salaires horaires, je veux dire, et si on ne sera pas pénalisé parce qu'on aura moins d'avantages, on sera une sorte de salarié de deuxième zone, avec des perspectives de carrière réduites et une transition entre temps plein et temps partiel qui peut devenir complexe, et le retour aussi, et des satisfactions à l'égard de l'emploi, de la qualité de l'emploi, qui peuvent être moindres. Et enfin, du côté de l'acteur public, on a un taux d'activité qui augmente, on l'a vu avec le temps partiel, mais aussi des problèmes de gaspillage de ressources, de capital humain. Si les gens travaillent à temps partiel, notamment les femmes, et je l'ai dit, comme elles sont plus formées, mieux, elles ont une formation secondaire et supérieure, beaucoup plus élevée en moyenne que les hommes aujourd'hui. Or, c'est sur elle que repose l'essentiel du temps partiel. N'assiste-t-on pas à une sorte de gaspillage à grande échelle ? Et puis, il peut y avoir des effets d'éviction. Le temps partiel peut chasser le temps plein. Voilà le genre d'argument qu'il faut garder en mémoire quand on va coter un travail par ses multiples dimensions. Donc, on dira qu'il y a, du côté du salarié, il y a un ensemble de préférences, de contraintes. Si le salarié peut agir de façon optimale, il n'acceptera des conditions difficiles ou atypiques de travail qu'à condition d'obtenir une contrepartie monétaire dont le montant peut évidemment varier en fonction de ses dispositions à accepter des risques ou de la pénibilité dans un emploi et en fonction de ses capacités de négocier dans un espace de choix possible. Les arbitrages qu'il fera reviennent donc à donner un prix à ces différentes caractéristiques de l'emploi qu'il souhaite ou qui lui est proposé, et à faire varier son salaire en fonction de la valeur, son salaire de réserve, celui qu'il est prêt à accepter, en fonction de la valeur positive ou négative de ces caractéristiques. Autrement dit, un travail peu plaisant, répétitif, plaisant, peu répétitif et autonome sera évidemment plus acceptable à un salaire donné qu'un travail répétitif, ennuyeux, sale et dangereux. Et de son côté, l'employeur, dans sa demande, doit arbitrer entre, d'un côté, la possibilité de compenser le travailleur pour des conditions de travail atypiques. Notamment, on a beaucoup étudié le cas des rythmes atypiques, travail de nuit, travail posté, etc. et qui font l'objet de compensations qui sont identifiés comme pénibles de manière plus ou moins complexe et sophistiquée. Et de l'autre côté, il doit évidemment examiner les coûts d'une amélioration des conditions de travail qui sont offertes. En permanence, il y a des mécanismes d'incitation, de réglage et de négociation à plus ou moins grande échelle sur ce qui est la valeur compensable du travail. La grande question actuelle qui est posée à une échelle nationale, c'est celle, je l'ai déjà dit, de la pénibilité avec son effet d'accumulation et de jeu sur la retraite. Donc, c'est un point complexe et ces aspects-là sont sur l'agenda des relations sociales de plus en plus. Donc, dans ce schéma, les deux acteurs, d'une certaine manière, employeurs et salariés, agissent de manière symétrique. Pour le travailleur, son salaire correspond à un taux marginal de substitution entre le revenu, c'est-à-dire le travail comme socle de consommation, et les conditions de travail. Et pour l'entreprise, elle produit dans la relation d'emploi, elle produit deux biens, du revenu consommable pour le salarié et des caractéristiques de désutilité du travail qu'elle compense, plus ou moins. Ça, c'est le raisonnement qui vaut dans des conditions de concurrence sur un marché du travail et d'information complète des deux côtés, salarié et employeur. Et donc, sous cette hypothèse-là, qui est exigeante, mais dont on peut partir, on fixe en quelque sorte les préférences des individus et on les considère comme homogènes et on fait varier l'environnement de travail. Cette idée de préférence considérée comme homogène, elle a un sens si je dis personne n'est supposé préférer véritablement un travail ennuyeux et répétitif à un travail varié et stimulant. Donc on peut s'accorder sur le fait que c'est une préférence relativement rationnelle. Et donc, on fait varier les environnements de travail. Si le marché est concurrentiel, les individus observent les conditions de travail et attribuent à ces conditions des valeurs positives et négatives. Et ils connaissent, plus ou moins bien, mais ils sont supposés le connaître bien dans ce modèle, la distribution de ces valeurs sur les divers emplois auxquels ils peuvent prétendre. Et ils font donc leurs arbitrages en fonction du prix positif ou négatif qu'ils accordent à ces caractéristiques, je l'ai dit. Comme les emplois diffèrent, les salaires seront différents, mais au total, l'argument essentiel de cette approche, c'est de dire que c'est la même utilité qui est obtenue par mécanisme de compensation par chacun. On additionne et on soustrait pour chaque emploi la valeur des caractéristiques considérées. Donc le salaire est composé d'une partie monétaire et d'une partie non monétaire. Cet argument, je l'ai appliqué avec beaucoup d'utilité, j'ai trouvé, dans l'étude des métiers artistiques, qui sont généralement avec une très forte dispersion des rémunérations et en même temps une très forte déclaration de gratification intrinsèque du métier. Et donc, c'est un cas presque limite d'application de ce modèle. Dans ce cas, mais dans d'autres aussi, des emplois moins agréables seront mieux payés et des emplois agréables seront moins bien payés, toutes choses égales par ailleurs. Ceci veut dire qu'on égalise des avantages et des désavantages nets des emplois. Alors, évidemment, ce raisonnement peut-il résister à l'objection élémentaire, mais un peu trop simple sous sa forme élémentaire, selon laquelle les meilleurs emplois sont aussi ceux qui sont les mieux payés et qui offrent des conditions de travail les plus favorables. Avant de soulever cette objection qui paraît assez naturelle, il faut quand même rappeler quelles sont ces caractéristiques du travail qui peuvent faire l'objet d'égalisation compensatrice. Alors, il y a à l'origine des travaux de la science économique et sociale moderne un grand livre d'Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui avait établi, en fait, une première liste de ces caractéristiques d'emploi génératrices des compensations salariales égalisatrices. Et la théorie s'est engouffrée derrière bien plus tard, avec Alfred Marshall ou Sherwin Rosen, et sur ce programme-là. Et la liste que je fais figurer ici, elle dit ceci, les salaires du travail varient selon que l'emploi est aisé ou pénible, propre ou malpropre, honorable ou méprisé. Évidemment, derrière cette qualification s'engouffre le grand thème de à la fois la reconnaissance, qui est un des mots-clés d'une certaine analyse critique du travail aujourd'hui, par exemple dans la lignée d'Axel Honneth, et le thème de la pénibilité. Deuxième critère, la facilité, le bon marché de ce que Smith appelait l'apprentissage, autrement dit la formation, la difficulté, la dépense qu'ils exigent. On a ici, en quelque sorte, les prémices d'une théorie du capital humain. L'individu investit dans une formation et il doit l'amortir en fonction du niveau de salaire qu'il espère, au niveau de qualification qu'il a obtenu. Troisièmement, le salaire doit varier en fonction de la constance ou de l'incertitude du métier, de l'occupation, disait le texte dans sa traduction, du métier. Autrement dit, s'il y a variabilité dans l'exercice du métier ou, au contraire, conditions régulières et permanentes d'emploi, une bonne sécurité d'emploi, évidemment, les choses doivent être compensables. Un emploi de court terme, par exemple intérimaire, obtient une prime salariale de 10% qui est liée à ce fait d'un risque d'intermission qu'il faut compenser. Les salaires peuvent varier suivant la plus ou moins grande confiance, dit Adam Smith, qu'il faut accorder à l'ouvrier. Ça, c'est le problème des mécanismes salariaux d'incitation à l'engagement dans le travail. Il y a beaucoup de théories récentes qui ont examiné ce problème sur ce thème de la valeur incitatrice du travail. On paye les individus plus que le salaire marginal de concurrence, d'égalisation à la productivité, parce que ce supplément permet en quelque sorte d'obtenir un engagement plus élevé dans le travail. Et donc d'obtenir la confiance, des relations de confiance. Observez qu'en France, le salaire évolue plus vite que la productivité depuis un grand nombre d'années et qu'il est, il n'est pas du tout ajusté aux fluctuations conjoncturelles de l'économie. Il l'est beaucoup moins qu'ailleurs. Donc, est-ce que c'est une des manières d'acheter en quelque sorte la confiance ? C'est une question qui est régulièrement posée. Enfin, le dernier critère, celui dont je me suis servi notamment pour les études sur les métiers artistiques, c'était les salaires varient en fonction des chances de succès. Quelqu'un qui a des probabilités incertaines de réussir doit éventuellement obtenir, pour l'activité qu'il réalise, espérer obtenir un salaire incite dans l'activité, qui sera plus élevé que quelqu'un qui est absolument sûr de sa situation et de ses chances de réussir son activité. Cette liste-là, elle est ancienne, mais elle est inaugurale. J'en retiens un argument, c'est le deuxième que j'ai mis en caractère gras et qui permet de corriger une partie de l'objection que j'ai évoquée tout à l'heure, selon laquelle les métiers où le travail est déplaisant et précaire sont aussi ceux qui sont le plus mal rémunérés. Évidemment, parmi les facteurs responsables des écarts de rémunération, il y a l'investissement en formation qui occupe une place essentielle pour récuser l'argument de l'homogénéité de la main-d'œuvre. Ce raisonnement de différence égalisatrice et compensatrice s'appliquera donc une fois contrôlée l'influence du niveau de qualification et le coût de la formation. À partir de là, il est possible d'examiner des phénomènes. Par exemple, est-ce qu'il y a corrélation positive entre l'agrément du travail et le haut niveau de qualification, donc pas de compensation. Mais il faut d'abord contrôler le niveau de compensation. En fait, cet argument nous introduit à une relation assez complexe entre les caractéristiques du travail qu'on peut identifier et qu'on peut éventuellement compenser et leur déroulement dans le temps. Il est en fait nécessaire de compter dans les mécanismes d'égalisation non seulement la formation initiale, mais la valeur proprement formatrice d'un emploi, ou le potentiel de développement qu'il contient, autrement dit, son horizon de carrière, en termes à la fois de promotion, d'enrichissement des tâches, mais aussi de possibilités de mobilité quand votre expérience augmente et que, éventuellement, vous voulez réagir à l'insatisfaction à l'égard d'un emploi actuel. Ces caractéristiques compensables, on peut donc les intégrer pour certaines dans un comportement rationnel d'offre de travail, un travail qui est exposé à un risque physique élevé ou dont l'exercice consiste à assumer des responsabilités et des risques élevés, par exemple être pilote de ligne, et qui sont objectivement mesurables et pas simplement déclaratifs. Bref, un métier dangereux doit comporter dans sa rémunération et dans ses conditions d'exercice des éléments de compensation de ce risque, monétaire, de rythme de travail, de repos compensateur, d'évolution de carrière, etc. Il y aura un exemple tout à l'heure qui sera assez spectaculaire, je vous le réserve tout de suite. Mais d'autres caractéristiques des emplois et de la relation entre l'individu, l'emploi et l'employeur, en fait, sont moins aisées à connaître d'emblée, ce qui limite l'argument de l'information complète, et ils se révèlent dans l'exercice même du métier. Il en va ainsi de la probabilité du succès ou des relations de confiance, pour revenir à la liste d'Adam Smith, mais aussi des perspectives d'accumulation d'expérience, comme je l'ai dit, et de la valeur en fonction de la valeur formatrice du travail. Il en va de même de la vitesse avec laquelle des compétences peuvent devenir obsolètes, un des grands sujets actuels du marché du travail. Il y a des mondes et des compétences qui sont voués à la disparition très rapide en fonction des chocs technologiques. Ça, ce sont des raisons externes, disons, aux travailleurs, mais il y a aussi des raisons endogènes, en quelque sorte internes. Par exemple, si je décide d'interrompre momentanément mon activité ou de la pratiquer à mi-temps, est-ce que je ne vais pas subir une perte, en quelque sorte, d'expérience et de chance d'accumulation d'expérience ? Il en va aussi ainsi des variations de niveau d'effort qu'un individu peut consentir selon que la distance est grande ou non entre l'emploi qu'il exerce et le choix professionnel qui serait conforme à ses préférences initiales et qui peut être compensé ou non par des arguments salariaux. C'est le problème important aujourd'hui du ce qu'on appelle le mismatching, c'est-à-dire de la réaction négative à une situation, par exemple, de surqualification. Quelqu'un qui est surqualifié pour l'emploi en question ne va évidemment pas être sensible à des arguments salariaux, il sera sensible plutôt à des mécanismes de non monétaires, de chances de promotion, etc. De salariat, je veux dire, il ne sera pas sensible à des arguments de salariaux instantanés. Alors, maintenant, il faut en venir évidemment à... Pardon, j'ai oublié de vous afficher cette slide, ou cette diapositive, parlons français. Maintenant, j'en viens à l'argument de la théorie de la segmentation, qui s'y oppose à la première. Cette théorie de la segmentation, dans sa forme classique, par exemple celle de Deringer et Pior, dans un livre célèbre, c'est celle du dualisme du marché du travail. Le marché primaire est celui qui est fait d'emplois qui ont la totalité ou un certain nombre des caractéristiques suivantes, de bons niveaux de salaire, de bonnes conditions de travail, une assez bonne stabilité, la sécurité et les conditions d'exercice du travail, l'équité dans le management et des chances d'avancement, une authentique carrière salariale. Et donc des gains à l'ancienneté. N'oubliez pas que 83% du marché du travail français actuel est fait de CDI, et entre 30 et 50 ans, on a le noyau dur du salariat à temps complet en CDI, à temps majoritairement complet en CDI, avec un niveau très élevé d'ancienneté, qui est d'ailleurs plus élevé en France qu'ailleurs en Europe, d'ancienneté en entreprise. Et donc, on voit là se constituer ce marché primaire, en quelque sorte, ou ce noyau dur, dans ce qu'on appelle aussi, dans une autre formulation, des insiders. À l'inverse, le marché secondaire contient des emplois peu payés, dotés de mauvaises conditions de travail, de variabilité dans l'organisation du travail, de risques d'instabilité et de faibles possibilités de progression. Donc, dans ce cas-là, la polarisation du marché du travail se comprend comme une corrélation stricte entre des salaires et des caractéristiques non monétaires des emplois et des conditions de travail. Donc, autrement dit, une corrélation qui est positive pour les bons emplois et aussi pour les mauvais, c'est-à-dire quand on a un emploi peu qualifié, on a aussi de mauvaises conditions de travail. le mécanisme n'agit pas du tout de manière compensatrice. Et ici, il faut intégrer dans cette segmentation à la fois la nature des emplois, plus ou moins qualifiés, c'est celle qui est la plus visible, mais aussi les secteurs d'emploi, les services. Un monde extrêmement hétérogène s'oppose à l'industrie, qui est beaucoup plus homogène, qui est historiquement, qui traite mieux ses salariés, historiquement, avec plus d'homogénéité, je veux dire. Mais aussi la taille des entreprises. Les grandes entreprises offrent, toutes choses égales par ailleurs, des salaires et des conditions de travail qui sont supérieures, de même que l'emploi public est de meilleure qualité non monétaire que l'emploi privé. Alors, il existe une grande variété de travaux qui ont testé la portée de ces deux modèles. Je vais passer sur cette diapositive parce que je n'aurai pas le temps, mais il y a un troisième segment qui s'appelle le marché professionnel. On le voit ici, ce sont des professionnels doués d'une grande réputation, d'une forte réputation et d'un capital humain élevé qui jouent en quelque sorte leur partie sur un marché beaucoup plus large qui ne se limite pas à l'entreprise, mais ils sont capables de mobilité inter-entreprise et leur univers de référence, c'est la communauté professionnelle. C'est le cas des professions libérales, mais c'est aussi le cas aujourd'hui de tout un ensemble de professionnels qui cherchent à exploiter leur réputation sur un marché considérable. Vous voyez se multiplier les initiatives de médecins qui vous proposent des formules remarquables par Internet, de régimes qu'ils vont piloter en direct, de cuisiniers réputés qui vont créer un Wikipédia payant des recettes mondiales, etc., et en quelque sorte exploiter grâce aux ressources de l'électronique et de la toile à des coûts marginaux nuls, puisque contacter un individu ou 100 millions techniquement, ça ne coûte pas beaucoup plus. C'est ensuite, si on veut les coacher, que c'est plus difficile. Mais enfin, le coût peut être décroissant aussi. Bref, on peut jouer sur beaucoup de registres pour exploiter sa valeur sur le marché du travail, avec ou sans technologie. Et c'est le cas de ce troisième segment du marché du travail. Mais ça n'est pas celui-là qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, il existe beaucoup de travaux qui ont cherché à tester la portée de ce genre de modèle, et aussi des travaux qui ont voulu relativiser l'opposition frontale entre ces modèles en comparant leurs performances respectives, c'est-à-dire aussi leurs limites, et pour chercher éventuellement à les rendre plus complémentaires qu'opposés. Alors je vais examiner deux manières de comparer la portée de ces théories. Premièrement, par l'étude des relations entre trois indices possibles de la qualité des emplois, le salaire, le niveau de qualification, approché par le niveau de formation ou de diplôme des individus, et les caractéristiques non monétaires des emplois, et je m'appuierai sur des travaux européens. Et ensuite, je vais explorer une des voies qui permettent de relier la théorie des numéro 1, des différentiels compensateurs, à la théorie numéro 2, celle de la segmentation, à partir de l'introduction des acteurs collectifs, syndicats de salariés, organisations patronales, acteurs politiques, législateurs. Et la situation sur laquelle je déboucherai plus tard, néerlandaise, ne se comprend pas du tout si on ne met pas en jeu ces acteurs collectifs qui ont été ceux qui ont équipé en quelque sorte les mentalités et les arrangements sociaux et économiques pour faire évoluer un modèle à grande échelle, un modèle d'organisation du travail. De manière plus complexe que par une simple loi qui dictait d'en haut un changement radical. Et c'est donc à partir de cette deuxième approche qu'on pourra montrer pourquoi le rapport au travail peut évoluer sensiblement, pourvu qu'on puisse finement périodiser, contextualiser et enrichir la caractérisation du travail comme objet de préférence et d'arbitrage. Mais dans ce cas-là, il faut introduire non pas l'individu, mais plus que l'individu, le ménage. Parce que le modèle le plus répandu du travail à temps partiel, puisqu'il est question de celui-là, c'est celui du couple de deux actifs dont l'un est à temps plein et l'autre à temps partiel. Je vous laisse distribuer les sexes sur les deux situations. Ça n'est pas très difficile de savoir qui est plutôt à temps plein et qui est plutôt à temps partiel. Mais le taux de satisfaction à l'égard de ces situations est tellement élevé et tellement stable qu'il y a quelque chose qu'on doit examiner de près pour comprendre pourquoi ce modèle-là s'est imposé là et pas beaucoup ailleurs, pas tellement ailleurs, ou dans de toutes autres conditions si le temps partiel s'est développé. Donc, d'abord, caractérisation multidimensionnelle du travail. Alors, je m'appuie ici sur des enquêtes importantes et intéressantes sur les conditions de travail en Europe. La dernière en date de 2010 et elle a été publiée en 2012. Et elle caractérise les dimensions non monétaires du travail à partir d'un questionnaire très détaillé qui recueille auprès des salariés non seulement des données sociodémographiques, mais aussi des données sur le salaire, les caractéristiques de leur emploi, secteur, taille de l'entreprise, etc., mais aussi des évaluations de leurs conditions de travail, recueillies par questionnement direct, sur les dimensions classiques suivantes, le contexte de l'emploi, le temps et les horaires de travail, l'intensité de travail, les facteurs physiques d'exercice du travail ou de pénibilité, les facteurs cognitifs, les risques psychosociaux, la violence, le harcèlement et la discrimination dans l'emploi, l'organisation du travail en tant que telle, les compétences, formations et perspectives de carrière qui sont liées à l'exercice de l'activité, les relations sociales dans l'entreprise et avec les collègues, question importante, l'équilibre entre travail et vie personnelle, la sécurité financière et enfin les satisfactions et les chances d'accomplissement dans l'emploi et la question de la santé et du bien-être. C'est un ensemble très vaste d'indicateurs qui peuvent être évidemment mis en relation les uns avec les autres et surtout avec les niveaux de salaire, de rémunération, de conditions d'emploi. Voilà le tableau. Alors, on peut en extraire un modèle en quelque sorte réduit pour construire des indices et l'indice de conditions non monétaire ou de caractéristiques non monétaires de travail sur lequel je m'appuie à partir des travaux européens que j'ai consultés, c'est un indice qui reprend quatre caractéristiques essentielles, quatre groupes de caractéristiques. Premièrement, des questions de qualité intrinsèque du travail, compétences et attributs de l'emploi, est-ce que les tâches sont monotones, complexes, est-ce qu'on y apprend des choses ? L'autonomie, dont on a souvent parlé déjà antérieurement. Est-ce que j'évalue moi-même la qualité de mon travail ? Est-ce que je peux choisir mes méthodes, la vitesse de travail ? Est-ce que je peux travailler à l'extérieur ? Le soutien des collègues, donc l'environnement social. Est-ce que j'ai de l'aide ou non des collègues et du manager ou du supérieur, comme on dit. Deuxièmement, qualité de l'emploi, stabilité contractuelle, type de contrat, combien d'années d'ancienneté ai-je, est-ce que je suis susceptible de perdre mon emploi dans les 6 mois. Voilà un certain nombre de caractéristiques qu'on peut prendre en compte et coter précisément, les perspectives d'avancement dans la carrière. Troisièmement, les risques sur le lieu de travail, des risques physiques, je ne les détaille pas, mais les voilà, et des risques psychosociaux. Et on a retenu dans la construction de cet indice essentiellement la question du harcèlement. Et enfin, la question des temps de travail. Celle-là va être intéressante parce qu'elle va un peu perturber l'ensemble de l'analyse, vous allez voir comment. Nombre habituel d'heures de travail par semaine, horaire de travail, flexibilité des arrangements sur les horaires et intensité de travail, c'est-à-dire rythme et contrainte de délai. Alors l'indice consiste à pondérer ces composantes, alors affectées à une valeur de 25% pour construire l'indice total, et à pondérer ces différentes sous-composantes. Et donc, si la théorie de la segmentation était complètement vérifiée, la corrélation entre un indice non monétaire de conditions de travail ou de qualité du travail et les deux autres indices, c'est-à-dire salaire et niveau de formation initiale, cette corrélation devrait être très élevée. C'est-à-dire les bons emplois versus les mauvais cumulent les caractéristiques positives et les mauvais les caractéristiques négatives. Mais si la théorie des différentiels compensateurs était sauvable ou vérifiée, alors ces corrélations devraient être beaucoup plus modérées, voire négatives dans certains cas. Alors qu'en est-il ? Voilà les données qui sont issues d'une tabulation des corrélations entre les différents indices. Les indices en gras sont les indices principaux, c'est en anglais, mais salaire, éducation et qualité de l'emploi, et les indices en caractère italique sont la décomposition des caractéristiques non monétaires, c'est-à-dire valeur intrinsèque du travail, stabilité de l'emploi, les risques et les aspects de temps de travail. Ce qui ressort de cette tabulation, c'est que, en général, les indices sont très élevés au sens positif. Il n'y a pas d'indice négatif. Donc, on peut y voir une confirmation du fait qu'il y a bien une stratification du monde du travail, une segmentation. Mais tous les indices ne sont pas les mêmes. Observez celui-ci, l'indice, la corrélation entre niveau de formation et qualité non monétaire, qualité de l'emploi, c'est-à-dire caractéristique non monétaire, c'est celui qui est le plus élevé. On peut voir là une preuve ou un indice du fait, une indication sur le fait que les individus très, très qualifiés, toutes choses égales par ailleurs, sont plus sensibles à la bonne qualité des emplois, la bonne qualité non monétaire des emplois, qu'au niveau de salaire. Et ils vont arbitrer à un moment donné, évidemment, dans un monde idéal, tout le monde rêverait d'avoir toutes les dimensions en même temps, mais quand on doit faire un arbitrage, on peut être d'autant plus sensible aux caractéristiques non monétaires qu'on est plus éduqué. Et notamment à ce qui s'appelle la valeur intrinsèque du travail, c'est-à-dire la nature des tâches, complexité, routine, etc., et capacité de développement personnel. Donc vous voyez bien, là, il y a quelque chose qui est, quand j'ai étudié mes chers artistes, ils se situaient dans cet univers-là, typiquement. Voilà le genre de variation qui apparaît, mais sur un fond qui est bien celui d'une corrélation positive et très cumulative, en quelque sorte, des différentes qualités du travail. Tout ceci va dans le sens de la théorie de la segmentation. On a un travail, un marché du travail stratifié. En fait, les choses deviennent un peu plus compliquées quand on descend un peu plus bas dans la différenciation des emplois. Qu'est-ce que deviennent les scores des trois indices, donc salaire, formation et qualité de l'emploi, qualité non monétaire de l'emploi, ce que j'appelle la caractérisation non monétaire de l'emploi, une fois qu'on a écarté la question des salaires et de la formation. Qu'est-ce que deviennent ces indices quand on va décomposer la diversité des emplois et on va les regrouper par ensemble plus homogène et plus étroit, par exemple les professions ou les secteurs. Alors voilà le genre d'exercice auquel on peut procéder. C'est un peu difficile à lire comme toujours de loin, mais je vais le commenter brièvement. Les losanges bleus représentent dans un indice qui va de 0 à 100, une échelle qui va de 0 à 100. Et plus, évidemment, on va vers 100, plus le poids, par exemple, des caractéristiques non monétaires qui sont représentées par le losange bleu, plus ce poids est élevé. Ici, il ne l'est pas du tout. On est dans des travaux d'ouvriers d'usine, opérateurs de machines. Donc, leurs conditions de travail ne sont pas très favorables. En revanche, leur salaire, qui est représenté par l'étoile, est beaucoup plus élevé. Et ici, on a, mais ça apparaît assez mal, il faudrait baisser un peu la lumière, mais on a le niveau d'éducation ou de formation. Et vous voyez, l'intérêt, c'est à la fois la hauteur relative de chacune des informations dans l'échelle de 0 à 100. On voit bien qu'il y a des salaires élevés, des indices de salaire élevés dans les professions... Ici, on a les professions et là, on a les secteurs. Dans les professions très qualifiées, évidemment, les professions libérales ou les managers, on voit les niveaux de salaire sont élevés. Mais l'information qui est intéressante aussi, c'est la position relative des différentes informations sur une même échelle et une même ligne qui correspond à une profession. Et c'est ça le point important. Et c'est ce qui permet de discuter la question de la compensation ou non des caractéristiques non monétaires. Plus les informations sont découplées sur ces tableaux, plus on a affaire à des mécanismes de compensation. L'information vaut pour les professions et ici pour les secteurs. Alors, il y a un exemple remarquable, je l'ai annoncé tout à l'heure. qu'est-ce qui explose la situation ou qui l'a fait varier considérablement ? C'est l'industrie minière. Or, c'était exactement le cas que citait déjà Adam Smith il y a 3 siècles ou 2 siècles et demi. Le cas où les conditions de travail ne sont pas bonnes, mais en revanche, le niveau de salaire est beaucoup plus élevé parce qu'il doit bien compenser ces conditions de travail. En tout cas, dans cette industrie-là, qui est par ailleurs bien organisée en termes de représentation syndicale et de force collective de négociation, ce qui est un critère essentiel pour faire reconnaître les conditions de travail, dans cette industrie-là, nous avons affaire à des conditions de travail qui ne sont pas bonnes, mais qui sont bien compensées. À côté, vous avez exactement le phénomène inverse. Vous avez des conditions de travail qui se situent en indice à peu près au même niveau, mais le niveau de salaire est beaucoup plus faible. Ce sont les services à la personne. Donc, vous voyez, la variabilité des situations en fonction des secteurs compte énormément aussi, comme la variabilité des emplois cotés d'après la profession du titulaire. On a ici cette indication que le découplage des indices vaut un zoom sur la situation de plus ou moins bonne compensation de certaines caractéristiques par d'autres. On a vu donc les emplois ouvriers et les emplois artisans qui obtiennent des compensations d'une partie de leurs conditions de travail. On a à l'inverse des situations où les conditions de travail sont plus favorables, mais les salaires le sont moins, les indices de salaire le sont moins. Le phénomène de compensation, il n'a de sens que s'il joue dans les deux sens, évidemment, c'est-à-dire des conditions défavorables mais un salaire élevé ou des conditions favorables et un salaire moindre. C'est ce cas-ci qui est celui du travail dans les supports administratifs de travail dans les entreprises et dans les administrations. En revanche, il y a des cas où les trois indices se réunissent à peu près complètement. C'est où la distance relative est beaucoup plus faible. Ce sont des emplois supérieurs qui obtiennent une partie, notamment des emplois avec une assez forte autonomie d'exercice du travail, qui obtiennent donc le cumul de toutes les situations. Cette corrélation entre les quatre composants de l'indice entre les quatre composantes non monétaires de l'indice dont j'ai parlé tout à l'heure, elle exprime donc la question de la plus ou moins grande incidence de la compensation sur la valeur du travail. Maintenant, si je vais examiner les choses en attribuant un sexe à l'emploi et aussi en différenciant le travail à temps plein, le travail à temps partiel. Qu'est-ce que devient la situation ? Ici, vous avez pour l'ensemble des emplois la situation des hommes et des femmes. Vous voyez que pour les hommes, les conditions de travail sont en moyenne moins bonnes en indice que leurs revenus. Et à l'inverse, pour les femmes, les conditions de travail dans ces conditions de travail, n'oubliez pas le critère de l'aménagement du temps de travail ou du temps partiel qui pèse en partie, et vous allez le retrouver ici, qui sont donc des conditions de travail qui sont meilleures au regard de ce qu'est la compensation salariale. On a aussi le petit rectangle vert, mais qui n'apparaît pas, qui est confondu avec le losange bleu pour les femmes. Il est à une position plus élevée que pour les hommes, ce qui confirme l'observation qui est fréquente et maintenant massive, hein, c'est que le niveau moyen de formation des femmes est supérieur à celui des hommes. Ensuite, on regarde ce qui se passe pour l'emploi à temps plein et à temps partiel, et vous voyez bien que la société a construit sa norme de construction de la qualité des emplois et de la corrélation entre qualité et salaire sur le temps plein, puisque les écarts entre les différents indices des différentes composantes sont très faibles, alors que, évidemment, pour le temps partiel, on a affaire à un découplage très important. On peut décomposer un peu plus encore en voyant comment hommes et femmes se distribuent dans cette situation. Les hommes à temps partiel, qui sont très minoritaires, obtiennent une compensation salariale plus facilement que les femmes. Vous voyez bien, la situation est symétrique et inverse. Ça tient à la fois à la nature des incitations à donner aux hommes qui sont minoritaires dans le temps partiel, mais ça tient aussi à la composition sectorielle de l'emploi et à un certain nombre de caractéristiques et aux volontés ou non d'aménager le temps de travail, de conserver ou non une flexibilité et à l'ancrage dans le temps partiel plus ou moins long. Je vais y revenir, j'espère, assez vite parce que ça fait partie des choses essentielles à dire, c'est les séquences de travail dans les deux univers, les deux régimes, je veux dire, temps partiel, temps plein. Donc ici, on a les hommes à temps plein et les femmes à temps plein, excusez-moi. Et ici, on a les hommes à temps partiel et les femmes à temps partiel. L'analyse, en fait, l'analyse du temps partiel masculin, les écarts d'indices sont plus faibles. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une plus grande homogénéité du temps partiel masculin, alors que les écarts d'indices sont beaucoup plus importants pour le temps partiel féminin. Ce qui veut dire une pénalisation salariale de fait, mais une meilleure organisation des conditions de travail si le temps partiel féminin répond effectivement, à partir du moment où on considère que le fait qu'il est choisi à plus de 70% veut dire quelque chose, il fait l'objet d'un mécanisme de compensation négative. Plus de liberté dans le travail par le temps partiel provoque effectivement une moindre chance de revenus pour ceux qui procèdent à ce type d'arbitrage. Je laisse de côté la question de savoir si ces arbitrages sont dans un univers de liberté complète, évidemment, on pourrait imaginer d'avoir, mais c'est le cas pour le temps plein, d'avoir des individus qui travaillent à temps plein et qui ont aussi des responsabilités familiales, par exemple, sans passer par le temps partiel. Il se trouve que c'est le cas essentiellement des emplois qualifiés des deux membres d'un ménage. Ce que donc il faut retenir de ce parcours, c'est la situation des femmes et celle des hommes à l'égard du temps partiel n'est pas la même, ni en volume, ni en incidence du temps partiel sur les deux sexes, les femmes travaillent beaucoup plus, ni en termes de compensation. La compensation est meilleure en quelque sorte pour les hommes que pour les femmes. Si on regarde rapidement ce que sont les origines de ces mécanismes de différence entre hommes et femmes dans une situation donnée, celle du temps partiel, on verra que ici c'est un graphique qui montre quelle est la quantité de professions dans laquelle on trouve le plus d'hommes, au moins 50% des hommes et 50% des femmes. Les losanges représentent la situation des hommes et les barres bleues la situation des femmes. Les hommes sont plus dispersés dans beaucoup plus de professions que les femmes. Autrement dit, les femmes se concentrent sur un nombre restreint de professions. Ceci peut agir évidemment sur le niveau de compensation salariale des temps de travail. C'est ce qu'on appelle une ségrégation horizontale. Ici se situe le taux de féminisation des secteurs d'activité. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les femmes sont à 76% dans les secteurs de la santé et du travail social et à 70% dans le secteur de l'éducation. Tous les autres indices sont plus faibles. Le travail, les activités associatives et le travail des services à la personne sont aussi majoritairement féminins. Et ensuite, les indices sont inférieure à 50%. Donc, on a là une des explications possibles. On pourrait aller plus loin, je ne peux pas le détailler très vite, mais ici, on a un exercice de décomposition de l'explication des différences de salaire. Ce qui est en hachuré veut dire qu'on n'arrive pas à l'expliquer par les variables classiques, le temps de travail, la formation initiale, les caractéristiques de l'emploi, les autres caractéristiques sociodémographiques. Il se trouve, et on a les différents pays qui sont alignés là. Moins vous expliquez les différences de salaire entre hommes et femmes, plus il y a des problèmes d'équité dans le traitement des hommes et des femmes. et donc des mécanismes à la fois sociaux, politiques, et de comportement des acteurs, employeurs, acteurs, législateurs, salariés, qui viennent en quelque sorte ajouter du bruit à l'information que donneraient les autres variables. Il se trouve que là où le temps partiel est extrêmement répandu, vous voyez que la part non expliquée est très faible. Autrement dit, c'est le volume de travail qui explique effectivement l'essentiel de la différence de rémunération entre hommes et femmes dans les pays où c'est devenu une norme, où en quelque sorte cette norme de différenciation des temps de travail est complètement intégrée dans les cadres sociaux et législatifs du travail. Cette dimension de différence de temps et de sa contribution à l'écart des revenus des hommes et des femmes, on la retrouve ici dans un travail que j'ai emprunté à Dominique Meurs et Sophie Ponthieu, qui est une explication d'une décomposition des écarts des salaires entre hommes et femmes en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Et les deux caractéristiques essentielles sont le type d'emploi, donc ce que j'ai appelé la ségrégation horizontale tout à l'heure, mais aussi beaucoup les différences de durée de travail qui sont la courbe supérieure. L'étagement des courbes veut dire la contribution nette de chaque facteur à l'explication des différences de salaire. Et donc cette courbe des différences de durée de travail est tout en haut, et elle veut dire que c'est la contribution principale à l'explication des différences de salaire. Mais observez la courbe inférieure qui est sous zéro, qui devrait donc jouer en faveur des femmes, eh bien c'est précisément la courbe des différences de capital humain. Les femmes sont en moyenne plus formées, comme je l'ai dit, et il se trouve que la contribution de cette formation devrait progressivement jouer, mais elle ne joue pas encore. On peut imaginer que si on prolonge les courbes, on verra bien que c'est un des facteurs qui réduit, puisqu'elle est sous le zéro, en quelque sorte, elle permet de comprimer la différence salariale, et elle va jouer de plus en plus, à condition qu'il y ait une interaction entre ces différentes composantes qui aille dans le sens d'une meilleure valorisation du capital humain féminin. J'ai parlé de mon premier registre d'analyse pour tester les deux théories, différentiel compensateur et théorie de la segmentation, en examinant les composantes du revenu, non monétaires et leur interaction avec salaire et formation. Maintenant, j'en viens à la deuxième analyse possible. Il y a des secteurs dans lesquels la prime salariale est importante. Par exemple, les secteurs que j'ai déjà cités, industrie manufacturière, construction, industrie minière. Pourquoi ces secteurs permettent-ils d'obtenir une très forte compensation des conditions de travail? Et ici s'introduit l'acteur collectif. On sort donc d'un cadre strictement individualiste, l'individu rationnel qui agit en fonction de ce qu'il observe, de ses préférences, et on va l'équiper d'un certain nombre de dimensions collectives de son action. Et on va examiner si on peut enrichir la théorie des différentiels compensateurs par des éléments de segmentation dualiste des emplois liés à l'action collective. L'hypothèse, c'est que dans ces secteurs-là, et on peut en citer d'autres aussi, les transports, la production et la fourniture d'électricité, de gaz, etc. Je pourrais revenir rapidement au graphique ici. Ces secteurs-là, utilities par exemple, c'est-à-dire tout ce qui est fourniture de gaz, d'électricité, c'est la même situation. On a un niveau de salaire beaucoup plus élevé que les conditions de travail, qui sont par ailleurs meilleures qu'ailleurs, mais et un niveau de formation qui est proche des conditions de travail en indice, mais les niveaux de compensation salariale ou de l'indice de salaire est beaucoup plus élevé que. Et donc, il veut dire qu'il y a un phénomène de surcompensation, en quelque sorte, positive. Et l'idée derrière cette surcompensation positive, c'est que les pratiques des taux de syndicalisation dans ces secteurs-là et les pratiques de négociation collective sont parmi les plus élevées d'Europe, à l'inverse des secteurs comme les services, le commerce de détail, l'hôtellerie, la restauration. Et dans ces secteurs à forte intensité de négociation collective, les compensations salariales sont meilleures pour des conditions d'emploi défavorables, mais on peut même dire qu'elles sont, à travers des phénomènes de surcompensation, elles rejoignent une théorie de la segmentation au sens où ces emplois sont à la fois rendus de meilleure qualité par la négociation collective, donc on diminue le caractère défavorable des conditions de travail par le jeu de l'action collective, et en outre, et en plus, on obtient un salaire plus élevé, toujours par le jeu de la négociation collective, et donc on aligne en quelque sorte positivement conditions de travail et salaire au lieu de faire jouer l'un contre l'autre. Si on améliorait beaucoup les conditions de travail, on pourrait dire, bon, alors moyennant quoi, on va réduire un peu le salaire. Et ici, au fond, non, c'est l'inverse. Donc on est dans une situation de théorie de la segmentation, on vient d'un phénomène de mécanisme de compensation, et on le transforme par une surcompensation qui est qu'on peut imputer pour une part à l'action collective. Voilà le genre de raisonnement qui permet en quelque sorte de relier les deux types d'analyse, de passer de l'une à l'autre et de montrer quelles sont leurs limites respectives et comment on peut les réconcilier d'une certaine manière. Au fond, donc, il y a trois situations. Des cas où il y a bien compensation, un travail, par exemple, un travail de nuit est mieux rémunéré. Des cas où il y a avantage cumulatif, moins de travail de nuit et plus de rémunération, et des cas où il y a des avantages cumulatifs du travail de nuit mal payé. Le premier cas correspond à la théorie des différentiels compensateurs, le deuxième et le troisième à la théorie de la segmentation, mais dans leur polarité, des emplois très bien protégés et soutenus, équipés d'action collective et qui cumulent en quelque sorte les bénéfices de l'action collective, et d'autres secteurs peu soumis à l'action collective ou peu engagés dans l'action collective et qui cumulent les désavantages des emplois de mauvaise qualité et mal payés. Alors, le travail à temps partiel peut servir de test pour aller un peu plus loin dans ces théories et dans leurs relations. Y a-t-il compensation négative du travail à temps partiel qui est proportionnée au temps de travail non assuré et transformé en loisir, ou bien y a-t-il donc, en quelque sorte, si vous travaillez moins à proportion, vous serez moins payé, mais il peut y avoir aussi un phénomène de désavantage cumulatif. Si vous travaillez moins, vous serez encore de moins en moins payé, pas simplement au prorata de ce que vous n'avez pas fait, ou alors une situation éventuelle d'avantage cumulatif. Non seulement vous travaillerez à temps partiel, mais parce qu'il y aura des mécanismes incitatifs, pour des raisons de différentes natures, vous obtiendrez un taux de salaire qui sera meilleur que celui qui aurait pu être obtenu dans une situation de stricte compensation. Alors, le temps partiel permet d'analyser ces phénomènes parce que non seulement il pose la question classique que poserait directement une analyse frontale en termes de segmentation en disant est-ce qu'il s'agit de mauvais emplois ou bien purement et simplement, ou bien est-ce qu'on peut y voir aussi de bons emplois, premièrement, et puis deuxièmement, et là il y a évidemment un problème très sensible, comme ces emplois à temps partiel sont occupés très majoritairement par des femmes, est-ce qu'il s'agit d'une double qualification négative du travail en quantité sécable ? Autrement dit, le travail de mauvaise qualité pénalise de toute manière toujours les femmes. Cette hypothèse d'une discrimination à grande échelle à l'égard des femmes, qui est une sorte de version radicale de la théorie de la segmentation, devra alors expliquer aussi pourquoi le travail à temps partiel est très majoritairement déclaré choisi plutôt que subi, même en partant d'une définition minimaliste du choix, comme le fait de ne pas rechercher un emploi à temps plein. Voilà un problème important et qu'il faut examiner en détail. Donc, il faut examiner premièrement les arguments du choix d'un travail à temps partiel, si choix il y a, et deuxièmement, examiner si et en quoi cette préférence pour ce travail conduit à accepter des conditions d'emploi qui impliquent de sacrifier quelque chose en échange d'autre chose. La question est de savoir si on sait exactement ce qu'on sacrifie. Il y a évidemment le fait de sacrifier moins d'heures, de travailler moins d'heures et donc d'obtenir un salaire proportionnellement moindre, mais en échange de salaire, mais il se peut aussi qu'on sacrifie autre chose qu'on ne voit pas directement instantanément. Quand j'introduis une dimension temporelle de moyen et de long terme, je dois compliquer mon raisonnement de segmentation ou de différenciation compensable. Je dois l'étendre à l'horizon de carrière, comme je l'ai dit, et donc étendre le raisonnement à ces séquences clés que comporte la variabilité d'un emploi selon cette grandeur qu'est la quantité horaire de travail. Est-ce qu'un emploi exercé à temps partiel durablement se compare à un emploi à temps plein exercé durablement ? Les sacrifices monétaires plus ou moins compensables sont-ils neutres au regard du temps long de la carrière ? Ceci voudrait dire que les chances de promotion et d'accès à des emplois mieux payés et valorisant mieux les compétences seraient équivalents dans les deux mondes. Ou bien ces chances sont-elles inférieures jusqu'au point où le temps partiel serait pris dans un mécanisme de désavantage cumulatif ? Dans ce dernier cas, évidemment, la formule extrême de la pénalisation, c'est la trappe à temps partiel. Même si le travail à temps partiel est au départ choisi, il resterait la seule option possible, ou majoritairement possible, et pourrait bien devenir subi si l'individu avait évolué dans ses préférences pour rechercher un emploi à temps plein, mais ne le trouve pas. Par exemple, sort de la situation où il l'avait choisi pour des raisons personnelles ou familiales, et qu'une fois ces questions réglées, l'impératif de conciliation travail-vie professionnelle s'impose dans d'autres conditions, et qu'il veut revenir à l'emploi à temps plein. Nous disposons là-dessus de données intéressantes. C'est une enquête, c'est un travail qui est cité souvent en référence de Alan Manning et sa co-auteure qui s'appelle Petrangolo, qui a été publié en 2008 sur des données anglaises. Et qui montre quelle est la pénalité dans les... je vais le commenter brièvement et je m'aperçois que je suis aux portes de la situation néerlandaise, mais que je vais y arriver. Ce sont des situations où, en cas de... Quelle est la pénalité du temps partiel qui est la donnée par rapport à laquelle on contraste le reste, le temps partiel par rapport au temps plein toutes choses égales par ailleurs, et pour l'ensemble de la population féminine, il est de à peu près 14,4%. Et ensuite, on va examiner comment il se comporte, comment ce différentiel se comporte selon les séquences d'activité. Par exemple, s'il y a eu un changement d'emploi dans le temps partiel et au regard du changement d'emploi dans le temps plein, est-ce que la pénalité demeure ? Elle est un peu inférieure. Mais ensuite, ceux qui étaient à temps plein et qui passent à temps partiel subissent une pénalisation de presque 10%. Et j'arrive ici à la situation qui est encore différente. Ceux qui passent du temps plein au temps partiel, ou celles plutôt, qui passent du temps plein au temps partiel et qui changent d'employeur par rapport aux femmes qui sont dans la même situation mais en temps plein, elles subissent aussi une pénalisation de 9%. Donc, toutes les valeurs sont négatives. Ici, on fait figurer le niveau de pénalisation dans les emplois très qualifiés, avec un niveau de diplôme élevé. Et la pénalisation est encore beaucoup plus forte, sauf pour cette situation de changement d'emploi et passage temps plein, temps partiel, où on peut valoriser davantage sa formation quand on change d'employeur, mais la pénalité existe de toute façon. Donc, vous voyez bien que à la fois, dans l'absolu, le temps partiel est moins bien payé que le temps plein en salaire horaire, mais les séquences de passage par les différentes possibilités, temps plein, temps partiel, durablement ou non, je passe sur les autres lignes de l'analyse qui montrent, qui contrastent selon la durée dans laquelle on a été en temps plein ou en temps partiel, et on change d'état, là encore, on a une incidence, mais toujours avec une pénalité, sauf un cas remarquable qui est je reste avec le même employeur, j'étais à temps plein et je passe à temps partiel. Et la pénalité n'est que de 2%. C'est la plus faible de toute cette liste et elle est importante parce qu'elle désigne l'un des lieux où peut se jouer une négociation, non pas au plan macro-social, tous les acteurs impliqués, au plan de grandes négociations collectives qui dépassent le cadre de l'entreprise, mais dans le cadre même de l'entreprise. Donc l'intérêt de ce genre d'analyse et de décomposition statistique, il est de cerner à travers, les données l'action des mécanismes. Les mécanismes sont là, sous-jacents, et peuvent être précisés. Et effectivement, les données statistiques et le travail statistique permet de corroborer l'existence de ces mécanismes et leur intensité. C'est ça que montre la situation. Eh bien, le travail ici a été fait sur les femmes considérées en solo, donc dans leur situation individuelle. La situation hollandaise, elle est liée ici à cette caractéristique-là, l'ancrage dans le temps partiel avec le même employeur limite en quelque sorte les limites ou même annule les phénomènes de désavantage cumulatif du temps partiel par rapport au temps plein. Mais comme je vais le montrer la prochaine fois, maintenant le point essentiel, c'est que il faut un environnement de ce travail et donc c'est le changement de focale. On n'est plus simplement sur l'individu, mais sur le couple. Et la question aussi est de savoir si dans un couple où l'un travaille à temps plein et l'autre à temps partiel, celui qui travaille à temps plein concède un peu plus de travail domestique au fur et à mesure que les choses avancent et que les jeunes générations s'installent dans cette situation, qu'auparavant. Et la réponse est pas vraiment. Donc il y a à la fois un modèle et une inertie, un modèle de transformation et une inertie assez forte, comme si des normes restaient à la fois d'émancipation et de tradition, de sexuation, du travail domestique très fortes. Voilà le genre de données dont on dispose dans le cas hollandais qui sont assez remarquables à examiner. J'y viendrai pour conclure la semaine prochaine cette longue séquence des exposés sur les quantités et les qualités du travail avant de changer de registre d'analyse. Je vous remercie pour votre attention.